Vous écoutez France Culture.
Bonjour. Scandale Prism, du nom de ce programme d'espionnage américain, lancement il y a quelques jours par Facebook de Graph Search, outil de recherche permettant de retrouver facilement les données postées sur le réseau social, la protection des données est décidément à l'ordre du jour. Comment protéger efficacement la vie privée et encadrer l'exploitation effrénée de la quantité impressionnante de données recueillies sur Internet ? Cette protection est d'autant plus difficile à assurer que la perception des risques de laisser des traces de soi faiblit dans ce qu'on appelle les digital natives, c'est-à-dire dans les générations qui sont nées dans Internet. Partant, nos catégories juridiques telles que consentement, propriété, contrat sont-elles encore pertinentes ? Eh bien, ce sont les questions que l'on va se poser avec Danny Cohen. Danny Cohen est professeur agrégé de droit et il enseigne à la Law School de Sciences Po. C'est comme ça qu'il faut dire aujourd'hui.
École de droit.
Danny Cohen, bonjour. Alors, bonjour. Est-ce que vous pourriez dresser un tableau pour nos auditeurs qui lisent la presse comme vous et moi, mais ne comprennent peut-être pas l'ampleur et la profondeur de ce phénomène qu'on appelle aussi les big data, c'est-à-dire cette exploitation de la profusion assez récente de données que j'ai dit sur Internet, mais qui excède bien entendu largement Internet. C'est aussi le pass Navigo, c'est aussi la géolocalisation, c'est aussi les smartphones, etc.
Alors en fait, cette idée de surveiller, de regarder ce que font les gens, de ramasser des données, est évidemment une idée policière assez ancienne, qui était même une règle de conduite dans les régimes totalitaires. Donc ces menaces ne sont pas nouvelles, simplement ce qui se passe, c'est avec d'une part l'informatique, d'autre part avec la circulation en ligne, il y a eu un coup d'accélérateur absolument colossal au cours des 15 dernières années. Et on peut aujourd'hui, si vous voulez, comparer la situation telle qu'elle existait en 1978, quand on a créé la Commission nationale informatique et liberté pour commencer à protéger les gens, et ce qui se passe aujourd'hui. À l'époque, on va dire, c'était une vague de bord de mer. Aujourd'hui, c'est un tsunami. Donc il y a sur les gens une masse absolument inimaginable, et on verra pourquoi tout à l'heure, inimaginable, c'est-à-dire que nos contemporains n'ont pas idée de ce qui est ramassé sur eux, donc une masse inimaginable, disais-je, d'informations qui sont collectées pratiquement à chaque instant.
Et alors quand vous dites inimaginable, c'est par nos concitoyens, par nous-mêmes, mais également par les gens qui les recueillent. C'est-à-dire que le principe même du recueil de ces données, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire et peut-être qu'un jour, on va trouver une utilisation extraordinaire en les rapprochant de manière avec des algorithmes, par exemple.
Oui. Alors, en fait, c'est absolument vrai et ça rend la chose d'autant plus inquiétante. Mais aujourd'hui, ces données sont commercialisées, vendues, utilisé. Je vais donner deux exemples rapides. Le premier, c'est qu'il y a une thèse de droit qui a déjà été soutenue il y a 10 ans maintenant, disait que des entreprises proposaient à d'autres entreprises qui voulaient faire du marketing de cibler le consommateur sur 3000 critères de comportement. Ça veut dire qu'on était capable de déterminer chez vous, chez moi, 3000 type de comportement qu'on pouvait répertorier. Ça, c'était il y a 10 ans. Donc, il faut se représenter que depuis 10 ans, la puissance des ordinateurs a doublé chaque année. Donc, je ne sais pas combien de milliers de choses on est cette année, mais c'est absolument colossal.
Et qui permettent de saisir un comportement, de pouvoir caractériser ce qu'on appelle une forme de vie.
Exactement, puisque quand vous entrez sur un site, on va regarder quel est le site, à quelle heure vous êtes entré, dans quel ordre vous faites votre navigation? Est-ce que vous commencez des achats que vous ne finissez pas? Le temps que vous passez? Est-ce que vous faites des tiroirs en allant voir des choses qui constituent des digressions? Si vous abandonnez un achat, à quel moment vous l'abandonnez? Quel est votre... etc. Je peux donner un exemple de ce que ça donne concrètement, mais qui est un exemple très très simple. Il y a des choses beaucoup plus sophistiquées. J'ai été invité à faire un cours en Italie il y a 2 ans. Donc la fac me permettait de voir mes mails sur un ordinateur qui appartenait à cette université italienne. Quand je me connectais sur cet ordinateur, je recevais des panneaux publicitaires immédiats sur ce qui se passait dans cette ville. Donc on va dire que j'étais localisé, mais ça finalement c'est relativement banal peut-être oui, à partir du numéro de l'ordinateur. Mais surtout, alors qu'on était en Italie, les messages m'étaient adressés en français. Donc ça veut dire que par ce que j'émettais moi comme message et qui était donc capté et analysé, on savait que je n'étais pas de langue italienne.
Mais alors, ça veut dire que, commençons par le début, c'est-à-dire l'adresse IP. Cet ordinateur avait, comme tous les ordinateurs, une adresse IP.
Absolument.
Est-ce que l'adresse IP est une donnée personnelle? Est-ce que l'adresse IP est dans le bien public et qu'elle peut être connue ou est-ce que c'est une donnée personnelle, Danico?
Alors ça, ce n'est pas la question la plus facile. C'est relativement difficile. Ça, je dirais que ça dépend. Et ça, ça montre aussi que les choses sont compliquées. Ça dépend si cet ordinateur est utilisé par une seule personne, auquel cas, caractériser l'ordinateur, c'est caractériser qui est derrière, ou si c'est un ordinateur familial ou un ordinateur d'entreprise, par exemple. Ce qu'il faut peut-être aussi ajouter, c'est que, encore une fois, ça a pris un coup d'accélérateur phénoménal avec les ordinateurs, mais avec l'Internet, j'allais dire, mais c'est utilisé depuis longtemps. Par exemple, dans une grande banque française que je ne citerai pas, on établit une arborescence, c'est-à-dire que Antoine Garapon est client de cette banque, eh bien, l'employé de banque va avoir toute l'arborescence de vos relations familiales, vos beaux-parents, vos ex-beaux-parents, l'ex-petite amie de votre sœur, par exemple, avec la situation bancaire de chacune de ces personnes, si elle est dans la même banque, bien entendu, quels sont ses revenus? Est-ce qu'elle a eu des découverts? Est-ce qu'elle a eu des incidents de paiement? Est-ce qu'elle a des crédits en cours? Donc, en fait, vous êtes relié, sans le savoir, à toute une quantité de gens, ce qui fait que quand vous allez demander, par exemple, la caution de votre frère ou de votre père pour un emprunt bancaire, eh bien, on va pouvoir regarder. Et donc, au fond, chaque employé de banque a accès à ça. Et ça, c'est un accès qui est, par exemple, illimité.
Qui est illimité et qui pose problème. Parce que quand je fais une transaction bancaire, quand je vais au guichet de ma banque ou que je tire de l'argent de quelque part, c'est, juridiquement, je m'adresse au professeur de droit, bien sûr. C'est un contrat entre moi et ma banque.
Absolument.
Qui est limité à une opération donnée. Je veux retirer telle somme de mon compte. Est-ce que je ne consens pas à une exploitation ultérieure et surtout extérieure à la finalité même du contrat qui me lie à cette banque?
Alors théoriquement, la banque ne peut pas revendre les données. Mais on ne sait pas très bien ce qui se passe derrière. Et il faut dire que, par exemple, la CNIL, qui est notre seule... Il y a aussi l'autorité de contrôle prudentiel, mais qui commence seulement à sanctionner. C'est très... C'est vraiment...
Mais ce n'est pas véritablement son objet.
Non, ce n'est pas son objet. La CNIL peut faire, toute matière confondue et France entière, 450 contrôles par an. Donc c'est quand même, si vous imaginez le nombre de fichiers, c'est quand même très
ridicule,
peu.
C'est ridicule.
Pourquoi vous avez raison de dire que c'est ridicule. Pourquoi cette situation? Eh bien parce qu'à un moment donné, moi je pense qu'il y a eu une volonté politique, j'espère qu'elle ne subsistera pas, mais qui était de ne pas laisser la CNIL grossir comme elle aurait dû grossir. Pour donner une idée, je pense qu'il y a moins de 150 personnes qui travaillent aujourd'hui à la CNIL, et encore, c'est parce qu'il y a eu un redressement récent, mais si on remonte 4 ou 5 ans en arrière, la CNIL française avait les effectifs de la CNIL roumaine, par exemple. Alors que, évidemment, le développement informatique n'est pas le même. Donc, si vous voulez, ces gens manquent cruellement de moyens par rapport, si vous comparez avec l'Allemagne, c'est incomparable, même en Angleterre, l'autorité comparable a beaucoup plus de moyens.
Et pourtant, la CNIL, cette loi de 1978, pour nos auditeurs, était visionnaire. C'est-à-dire qu'avant tout le monde, je parle sous votre contrôle, elle a anticipé ce qui allait se passer.
Ah oui, c'est une prémonition extraordinaire et on ne le dira jamais assez. C'est une loi formidable. Il faut quand même dire que là encore, en 2004, on a réduit les prérogatives de la CNIL. Il y avait des choses qui ne pouvaient pas être faites en matière de fichiers publics, de fichage des citoyens sans son accord. Et on a changer ses dispositions pour pouvoir se passer de son accord.
Alors, pour que nos auditeurs se rendent compte, parce que c'est en soi une démarche politique que nos auditeurs se rendent compte de la gravité de ce problème, parce que leur conscience fait partie de la protection et fait le premier stade du combat pour le respect des droits. Ces droits se divisent en deux. Il y a les menaces publiques, c'est-à-dire oui. de pas être, et c'est ce que montre l'affaire Prism récemment avec cet organe public de la défense américaine, mais il y a aussi des menaces privées qui posent des problèmes différents et qui doivent être distingués.
Absolument. Le problème, vous avez tout à fait raison, mais ça appelle deux remarques complémentaires. D'abord, ces menaces publiques, j'allais presque dire qu'on y est habitué. C'est-à-dire que notre législation de protection des libertés publiques, elle est construite par rapport à un modèle d'État menaçant, de Léviathan.
La menace vient de l'État.
Voilà, et on a l'habitude de ça. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les pays démocratiques, les États sont encadrés par un certain nombre de règles. Ils doivent rendre des comptes, il y a le phénomène de l'élection, il y a les commissions d'enquête parlementaires. Bon, mais quand même, ça n'empêche pas la menace publique de s'aggraver. Par exemple, les empreintes génétiques. Quand ça a été créé, ce fichier a dû être créé à la fin des années 90. C'était pour les grands délinquants sexuels. Aujourd'hui, un faucheur d'OGM qui ne donne pas ses empreintes génétiques, eh bien, il est passible de prison. Et donc, on a vu que petit à petit, c'est quelque chose qui se fait comme ça. On étend le champ du fichage. Sur le passeport biométrique, c'est la même chose. Ça, c'est la menace publique. Oui. Mais à côté de ça, il y a quelque chose qui n'avait pas été envisagé, en tout cas avec cette force, c'est la menace privée. Et cette menace privée, elle est qu'on ramasse quantité de choses sur les gens. Et là encore, deux choses. Première chose, on ramasse sans que vous le sachiez. Et il n'y a pas forcément besoin d'Internet. Imaginons, vous avez une carte de fidélité dans une grande surface, un hypermarché. Eh bien, on va mémoriser vos achats. Ça paraît banal. J'ai acheté des pâtes, j'ai acheté du vinaigre. On va connaître votre religion, puisqu'on peut savoir si vous achetez halal ou kasher. On va connaître votre situation de famille, si vous achetez des couches culottes, par exemple. Mais si 3 mois plus tard, vous achetez des préservatifs, on va se dire, il trompe sa femme. Ou alors, elle a attrapé une maladie transmissible. Et donc, on voit que, si vous voulez, des informations qui, prises isolément, paraissent vénielles, par un effet d'accumulation, on arrive à un terril d'informations sur les individus.
Mais alors moi, je me fais l'avocat du diable, Danny Cohen. C'est-à-dire que tout cela, si c'était transmis directement à la CIA ou à la DGSE, ce serait inquiétant. Mais si c'est transmis pour mieux satisfaire mon désir et pour me dire, et pour que finalement ce profil, on va identifier un profil de consommateur, ce monsieur aime le golf par exemple, et donc on va lui dire quand on va pouvoir le géolocaliser à côté d'un golf, on va dire, monsieur, tenez, il y a tel golf à 1,7 km sur la gauche, vous prenez la départementale 42, ça vous coûtera 37 euros, ça ferme à 18 heures. Où est l'intrusion ? Où est la violence faite à l'intimité ?
C'est une très bonne question. Le problème ne va pas toujours se poser comme ça, parce que ça, c'est la face agréable. Et encore une fois, il faut bien préciser, parce qu'on ne l'a pas dit peut-être pour nos auditeurs, qu'il ne s'agit absolument pas de rejeter par principe, en bloc, systèmes de communication. Il s'agit juste de savoir s'ils peuvent se dérouler dans une espèce de jungle où on piétine les règles de droit, ou si peut-être ils doivent un tout petit peu respecter un certain nombre de règles. On va vous dire, le golf, oui, c'est pas mal. Mais on va dire, tiens, ce monsieur Garapon, il joue régulièrement au golf. Peut-être que pour lui, on pourrait majorer le prix. Et ça commence à se faire. C'est-à-dire que vous avez des logiciels qui surveillent votre consommation et qui disent, celui-là, probablement, on peut lui faire payer plus. Et donc, ça permet de maximiser le profit de l'entreprise. Deuxième élément, c'est pas gênant en soi, sauf que... Une enquête qui a été faite il y a 2 ans auprès des recruteurs américains montre que 80% d'entre eux, 80%, ont indiqué avoir déjà refusé des candidats à l'embauche à partir de ce qu'ils avaient trouvé sur Internet. Donc ça veut dire que ce qui se passe, c'est qu'au fond, l'internaute ne sait pas ce qu'il advient de ses données. Dans les fichages de banques, les banques communiquent entre elles Et les choses, celui-là, non, il réclame contre les frais bancaires. Parce que ça, c'est noté. Il s'est plaint du montant des frais bancaires. Et donc, de cette manière-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est l'opposition entre la transparence, c'est-à-dire qu'on nous déshabille, et l'opacité qui est derrière, c'est-à-dire que nous ne savons pas qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on ramasse sur nous d'abord, et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait. J'avais proposé dans un débat que, puisqu'on nous dit ce n'est pas si grave que ça, et on nous dit surtout, les gens sont d'accord, les jeunes, de toute façon, ils sont indifférents à ça, ça leur est égal. Ça leur est égal dans l'état d'information où ils sont. Moi, ce que je voudrais juste vérifier, peut-être qu'ils s'en fichent, je voudrais juste vérifier que si on leur dit tout ce qu'on ramasse sur eux, ils seront toujours d'accord. C'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, faire défiler sur l'écran, à la fin de ma navigation, comme un générique de film, la totalité des informations qu'on aurait recueillies sur moi. Je vous assure que le générique serait très long.
Oui, mais alors, quand je clique, je continue à me faire l'avocat du diable. Quand je clique, je consens. Juridiquement, un double clic, ça veut dire « d'accord, ok ». Donc, j'ai donné mon consentement.
Absolument. Sauf que le problème, c'est que le consentement, il doit être donné en connaissance de cause. C'est comme si vous me disiez, j'ai été d'accord pour acheter cette veste, mais je ne connais pas exactement le prix à payer. Est-ce que vous allez considérer que votre accord est valable si on ne vous a pas donné le prix? Eh bien, là, je dis, c'est la même chose. Puisque je ne sais ni ce qui est ramassé sur moi, on me dit, on ramasse vos données. On vous l'écrit sur l'écran, mais on ne vous dit pas quoi. On ne vous dit pas combien. On ne vous dit pas combien de temps on les garde, on ne vous dit pas comment on les traite, on ne vous dit pas à qui on les donne.
C'est ça, parce qu'elles vont circuler, elles vont avoir leur vie ensuite, ces données, elles vont circuler sur le net.
Elles vont être l'objet d'un commerce. C'est-à-dire que toutes les indications les plus fines sur notre vie sont l'objet d'un commerce. Et je vais plus loin. La Cour de cassation, sous l'égide de son premier président il y a quelques années, a rendu anonyme toutes les décisions de justice qu'on trouve sur le site gouvernemental Légifrance. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que les employeurs, par exemple, recherchaient si le salarié n'a pas eu un divorce un peu chaud avec son épouse, etc. Et donc, on allait chercher des informations de vie privée pour les utiliser à l'encontre des gens, ce sans qu'ils se soient doutés une seconde que ça serait utilisé. Dernier exemple, mais on pourrait évidemment en aligner des quantités. Dans une université américaine, une photo que j'ai vu la photo d'une jeune femme qu'on voit avec un verre à la main, manifestement très gaie, dans une tenue tout à fait décente, se voit refuser la soutenance de sa thèse au motif qu'elle est là avec un verre d'alcool à la main, elle a les joues rouges et elle déshonore l'université. Donc on voit bien que, si vous voulez, la menace n'est pas platonique. Elle a des effets concrets, quotidiens.
Alors, on va venir ensuite sur les moyens qu'on pourrait imaginer, ou qui existent déjà, notamment les procès en Autriche. Mais je voudrais pousser encore un peu le raisonnement pour nos auditeurs. Là, on est dans le cadre d'une identification. On a identifié cette jeune fille qui avait un verre à la main, on identifie un client. Mais ce que vont répondre les gens qui recueillent des données, ils vont dire, mais attendez, nous, ce n'est pas les identités qui nous intéressent. Dans le comportement d'un consommateur, ce n'est pas tellement de savoir que c'est M. Danny Cohen qui achète des pâtes ou du vin rouge. Ce qu'on veut, c'est savoir quel profil achète quoi, à quelle heure, où et comment. Et donc, on va dresser des formes de vie. C'est l'expression « patterns of life », qui est en plus fort que « forme de vie ». C'est-à-dire, en fait, des profils de comportement. Donc, on retirait tout ce qui est identifiant, et nous, on va avoir besoin, pour la lutte antiterroriste, pour des tas de choses, pour le consumérisme, beaucoup de sécurité, consommation.
Hein. Oui.
On va avoir, mais c'est bientôt demain la politique, hein. On peut imaginer qu'on va avoir un profil d'électeur, comme ça, on saura exactement à qui il faut s'adresser, parce qu'on aura, avec des milliers de caractéristiques, exactement des profils. Où est le problème ? Où est le problème en termes de penser en termes de protection de la vie privé, donc individuel, est-ce qu'on n'est pas déjà au-delà ?
D'abord, ce ne sont pas des données anonymes, parce qu'à partir du moment, si vous voulez, où on veut en faire le commerce et où on veut vous envoyer des publicités ciblées, on les envoie à vous. On ne veut pas les envoyer dans la nature. Donc, nécessairement, tout ceci passe par un traçage nominatif. Il y a une espèce
qui revient à la personnalité, c'est ça ?
Exactement. Puisque c'est à vous qu'on veut écrire. Donc, évidemment, à chaque fois, on conserve les données sur les intéressés. Et on va regarder vos goûts. Moi, je peux vous dire que quand je réserve un hôtel dans un pays, je vais recevoir pendant plusieurs mois des publicités m'indiquant « mais regardez, vous êtes allé là, vous devriez aimer ça aussi », etc. Donc ça veut dire que c'est comme s'il y avait quelqu'un d'immatériel qui sait exactement ce que j'ai fait.
Mieux que vous.
Mieux que moi, plus en détail que moi, puisque je ne note pas tout ce que je fais. Et donc, de ce point de vue-là, c'est important. Deuxièmement, il ne faudrait pas s'imaginer que ce commerce, qui est extrêmement fructueux, est fait dans des règles de transparence et d'honnêteté. Je donne un exemple. Puisqu'on parlait de anonyme ou identifié, Facebook a mis au point un système de reconnaissance faciale qui lui vaut des ennuis en Allemagne, puisqu'il y a des commissaires dans les lenders à la protection des données. Et au fond, qu'est-ce qu'ils font ? C'est-à-dire que, y compris pour des gens qui n'ont pas de compte Facebook, vous n'avez pas de compte Facebook, imaginons que vous êtes photographié avec quelqu'un qui en a un, l'intéressé met la photo où vous vous trouvez, mais vous ne savez pas que cette photo est sur Facebook. Et donc, on va recouper avec tout ce qu'on sait pour voir qui est ce type sur la photo. Et donc, bientôt, on va pouvoir dire, bah, regardez, telle personne était à tel endroit, tel jour, tel jour, tel jour. Et donc ça, si vous voulez, c'est un système qui, aujourd'hui, Facebook est capable d'identifier à partir de leur visage plus de 500 000 personnes. Et ils n'en sont qu'au début.
Bien sûr.
Et d'autre part, ils trichent. C'est-à-dire qu'un étudiant en droit autrichien a demandé ce qu'on avait recueilli sur lui. En 3 ans d'utilisation, Facebook disposait de 1220 pages d'informations sur son compte, ce qui montre que la Stasi était une bande de plaisantins à côté. Or, ces informations, encore une fois, sont revendues. On ne sait pas. Qui sait à qui Facebook, par exemple, revend ces informations ? Personne n'en a la moindre idée.
Et est-ce qu'ils
ça n'est pas communiqué,
c'est ça. Et ils n'ont pas de accountability, pour reprendre l'expression de la constitutionnelle américaine, de dire devoir de rendre compte. Alors, maintenant, je m'adresse, comme depuis le début de cette émission, au professeur de droit. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que le droit peut faire ? Est-ce qu'il n'a pas déjà perdu la bataille ?
Ah, c'est une bonne question. Malheureusement, c'est difficile. C'est difficile pourquoi ? Parce que si ces pratiques se déroulaient par une société qui est en France et qui agit uniquement en France, on pourrait dire au gouvernement français « saisissez-vous du problème ». Le problème, c'est que c'est une activité internationale avec des pays qui sont, dont certains très peu regardants. Et évidemment, on n'arrive pas à saisir les gens. Mais ce n'est pas parce qu'on est débordé techniquement. C'est simplement parce qu'ils arrivent à se mettre à des endroits où vous ne pouvez pas les atteindre. Ou en tout cas, il faudrait une volonté politique, j'allais dire, où les gens... Il commence à y avoir un petit frémissement du côté du G20. Mais c'est très lent et très en retard. Quel contraste avec l'avance qu'avaient les gens de la CNIL à cette époque. Alors, il y a des textes européens, et en particulier...
Parce que l'Europe, c'est le bon niveau, finalement, pour agir, pour intervenir à ce niveau-là.
C'est un premier niveau, même s'il est malheureusement insuffisant.
Et il est plutôt en retrait dans la directive qui est en train de s'annoncer, en plus.
Il est très en retrait. D'abord, la directive de 1995, moi, m'avait quand même laissé pantois, parce qu'elle s'intitule « Directive sur la libre circulation des données » et la protection des données personnelles. Alors, protection des données personnelles, c'est rassurant.
L'ordre est fâcheux.
Oui, l'ordre est fâcheux, et libre circulation, ce qui circule librement, c'est des marchandises. Donc, ça veut dire que la Commission européenne a estimé, benoîtement, sans s'en expliquer, comme si c'était une évidence, que les informations personnelles sur vos goûts, vos habitudes de consommation, votre religion, vos informations politiques...
Votre situation familiale
sont des marchandises, et qui plus est, des marchandises qui ne vous appartiennent pas à vous, mais aux gens qui les ont pêchées, comme un poisson appartient aux pêcheurs. Alors... Pourquoi c'est ça ? On n'en a jamais su. Et donc, à partir du moment où vous dites que ce sont des marchandises, vous voyez bien que vous les faites vous appuyer sur un plateau de la balance pour les mettre du côté marchand. Et dès lors, les règles de protection de cette directive sont médiocres, il faut le dire. Par exemple, le consentement de l'internaute au traitement de ses données, consentement qui, encore une fois, est donné quasiment les yeux bandés, comme on le disait tout à l'heure, ce consentement n'est qu'un des 6 cas dans lesquels le traitement par des entreprises de vos données personnelles illicites. Et ça sera pareil dans le projet de règlement qui est en cours pour remplacer cette directive. Ce projet de règlement, encore très timide, représente quand même une amélioration Sauf que si on regarde, il va venir bientôt en discussion au Parlement européen, il y a déjà 3000 amendements, dont 90% visent à affaiblir le niveau de protection pourtant modeste qu'il offre.
Alors ça veut dire qu'il faudrait, parce qu'on parle du législateur, mais le législateur, il est réactif à l'opinion publique, à une sensibilité publique, à des interrogations collectives. Et là, en l'occurrence, elle semble remarquablement passive, notamment chez les jeunes qui sont les plus gros consommateurs oui. de ces données, de ces moyens, donc les plus grands pourvoyeurs de données. Alors on ne va pas se lamenter là-dessus, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait peut-être commencer par une prise de conscience beaucoup plus grande, notamment chez ces populations cibles.
Oui, c'est exact. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens aient une idée qu'ils n'ont pas, hein, encore une fois. Ils pensent que seul ce qu'ils décident de mettre volontairement en ligne est et reste en ligne. En réalité, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et quand je dis partie immergée de l'iceberg, l'expression ne convient pas, parce qu'en réalité, si vous voulez, ils ont idée de 3% de ce qu'on prend sur eux. Ils n'ont pas idée des 97% autres. Donc en fait, ils ne savent pas. Et donc il y a quand même ce premier aspect. Deuxième aspect, quand ils effacent par exemple quelque chose, pour reprendre l'exemple Facebook, ils pensent que c'est effacé. L'affaire Mark Schrems a montré qu'on dit à l'internaute oui. que c'était effacé, mais ça n'est pas effacé. C'est-à-dire que c'est effacé pour lui seul. Et donc, là aussi, il y a une tromperie caractérisée. On lui fait croire que c'est effacé, alors que ça ne l'est pas.
Mais ça, c'est une qualification pénale. C'est une qualification juridique. C'est une faute de dire « je vous garantis que » et de ne pas le faire.
Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que les dirigeants de Facebook disent « il faut revoir les règles de vie privée ». C'est comme, si vous voulez, quelqu'un qui chaparde dans une grande surface et qui disait « non, écoutez, les règles sur le vol, il faut quand même les revoir ». Et donc, on est dans quelque chose de cet ordre-là, sauf que là, on est en face d'acteurs qui sont surpuissants et qui, surtout, apportent aux gens une espèce de confort agréable. Et ça se joue sur le terrain du confort. On dit « écoutez, ne vous réveillez pas, on s'occupe de tout ». On vous a déjà complètement déshabillé, mais au fond, est-ce que c'est si grave que ça ? Et comme, par exemple, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, si vous n'êtes pas embauché, vous ne savez pas pourquoi vous n'êtes pas embauché. Donc, il se peut que vous ne sachiez jamais que, on a trouvé quelque chose qui a déplu.
Parce que c'est ça la grande difficulté, c'est que comme on ne sait pas, on ne fait pas de procès. Comme on ne fait pas de procès, il n'y a pas de jurisprudence. Comme il n'y a pas de jurisprudence, il y a peu de contraintes. Et c'est aussi quelque chose de singulier. Il y a de moins en moins de jurisprudence, notamment des juges judiciaires qui devraient en France réagir.
D'abord, par exemple, sur la protection des données bancaires, le Conseil d'État a considéré que c'était ce qu'on appelle... pardon d'employer une expression de juriste, de l'ordre public de protection, ça veut dire que le client peut y renoncer. On pourrait quand même discuter ça. Et d'autre part, sur certains opérateurs, la Cour de cassation les qualifie trop facilement d'hébergeurs, ce qui leur donne un régime très favorable, très allégé en matière de responsabilité. Mais il faut voir, par exemple, que Google a été récemment condamné par la CNIL pour des pratiques de récupération d'informations de récupération totalement illégale, d'informations extrêmement privées, par exemple les mails d'une dame qui cherchait une relation extra-conjugale. Et donc ils avaient ça, ils ont gardé la donnée, ils avaient l'adresse de la dame. Enfin, c'est des choses dont les gens n'ont pas idée.
Alors, cette émission arrive à son terme. Danny Cohen, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Un vœu, en 30 secondes, deux idées que les auditeurs vont pouvoir retenir et qui vont les accompagner cet été quand ils se promèneront, qu'ils retiendront des hôtels.
Que les gens retiennent, vous m'avez demandé je vais en donner deux choses. D'abord, quand, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est important, quand vous avez des choses gratuites, en fait, l'objet de la transaction, c'est vous. Vous êtes la matière de la transaction. Ça, c'est une première chose. Et surtout, il faudrait déjà une chose au minimum, c'est que les gens soient curieux, essayent de se figurer, de se demander qu'est-ce qu'on récupère sur eux. C'est déjà le premier pas vers la conscience.
Eh bien, Danny Cohen, merci. J'espère que les auditeurs auront retenu ces deux leçons.
Merci.
Cette émission a été préparée par Victor Massé de l'Épinay, à la réalisation Viviane Noël et à la technique Virginie Cassagne. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent réécouter cette émission sur le site de France Culture à la page du Bien commun pendant 3 ans et la télécharger pendant 1 an. Et ils ne seront pas, du moins je l'espère, leurs données ne seront pas pillées, on peut leur garantir. Et ils auront quelques références, je dis bien quelques références, de toutes celles qui ont été abordées aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons nous poser la question avec Robert Gély, qui est procureur à Nanterre et qui préside la Conférence nationale des procureurs de la République, si nous avons vraiment besoin d'un super procureur financier.